Jardiner sur son toit, une évidence pour les anciens peuples scandinaves qui utilisaient cette méthode pour isoler leur maison.
Nous pourrions gagner beaucoup à transformer nos villes à la manière des mythiques jardins suspendus de Babylone.
Voici donc les principes généraux des toitures végétales et quelques avantages d'utiliser cette technique.
Les toitures à végétation dites intensives comprennent la culture de plantes et même d'arbres de grande dimension dont seule l'imagination et la capacité technique sont les limites.
On les appelle aussi toitures jardins qui permettent l'aménagement de jolies terrasses sur les toits.
Toutefois, concentrons-nous ici sur la toiture à végétation extensive, nettement plus abordable.
Les toitures à végétation extensive nécessitent peu de travaux de mise en place et d'entretien. On n'utilise que quelques types de végétaux, surtout des mousses et des plantes herbacées, sur un substrat de faible épaisseur, soit de 8 à 10 cm de terre environ.
Une végétation extensive étant très légère, des toits de tout type peuvent être convertis, béton, bois, acier, tout s'y prête.
Une des techniques consiste à placer sur le toit une membrane de géotextile d'une étanchéité de qualité industrielle pour ensuite installer des ballots de paille en entier et enfin une petite couche de terre.
Il est vrai que l'aménagement d'un toit végétal est plus dispendieux que celui d'un toit conventionnel.
Cependant, les coûts varient énormément selon le type d'installation choisi. Pour une toiture conventionnelle, les coûts se situent entre 1,50$ et 10$ du pied carré.
Pour une toiture végétale aménagée par un professionnel, on parlera plutôt de 8 à 20$ du pied carré.
Une toiture végétale extensive que l'on aménagera soi-même pourrait coûter seulement le tiers de plus à l'installation qu'un toit sans végétation.
Cependant, si l'on tient compte des économies énergétiques à long terme engendrées par leur pouvoir isolant, les toitures végétales s'avèrent plus avantageuses que leurs rivales conventionnelles.
On estime, considérant la durée de vie de la toiture, que le coût total des dépenses énergétiques équivaut à la moitié pour un toit vert.
Cette différence s'explique par d'importantes économies d'énergie réalisées sur la climatisation l'été, sur le chauffage en début d'hiver quand il n'y a pas encore de neige et par la durée de vie prolongée du toit.
En 2008, une étude réalisée par une équipe de chercheurs du département d'ingénierie civile et environnementale de l'Université du Michigan révèle que les toitures végétales permettraient des économies allant de 20 à 25 % au bout de 40 ans.
La densité urbaine diminue la libre circulation de l'air contenant les toxines et les poussières affectant notre santé.
Sachant que les végétaux ont un pouvoir de filtration des gaz polluants, cultiver davantage de plantes en ville devient un élément important à considérer dans la planification des urbanistes.
Une étude de la NASA conclut même qu'une surface herbacée d'un mètre carré a la capacité d'absorber 200 grammes de poussière par année, ce qui représente une diminution d'environ 70 % par rapport à une zone sans arbres.
La température en ville est habituellement chaude et sèche. Les murs nus, selon leur couleur et leurs matériaux, reflètent la chaleur du soleil.
Une présence suffisante de plantes favorise le maintien d'une température fraîche et humide, ce qui permet de contrer les îlots de chaleur.
Les végétaux ont aussi la faculté de retenir l'eau. Un couvert végétal sur un substrat d'environ 8 cm pourrait alors garder jusqu'à 70 % d'une averse moyenne en été.
Les couches de substrat jouent le rôle de tamis filtrant les contaminants, ralentissant la crue des eaux vers les égouts et réduisant considérablement l'érosion des sols.
Pour la collectivité, cela entraîne aussi une réduction des coûts pour le traitement et le transport des eaux usées.
Notons que le verdissement des toits s'inscrit également dans une démarche de sécurité alimentaire.
En effet, en choisissant des végétaux comestibles, ces nouvelles surfaces de culture peuvent devenir des sources de nourriture de proximité.
Il s'agit d'examiner quelles seraient les espèces les mieux adaptées au microclimat, au régime hydrique, de vent et d'ensoleillement.
Une planification judicieuse demandera le moins d'entretien possible et une observation continue augmentera les chances de succès.
Un conifère placé au nord d'une habitation fera obstacle au vent froid de l'hiver.
Alors que les feuillus situés au sud, agissant comme barrière contre le soleil, apporteront fraîcheur et humidité en été.
En intégrant ainsi l'habitation humaine dans son écosystème, cela conduit à la maison bioclimatique.
L'application des principes de permaculture devient aussi très intéressante dans ce genre d'initiative.
En plus d'offrir des espaces idylliques, ces jardins contribuent à recréer un habitat favorable à la faune urbaine.
Ces écosystèmes collaborent au maintien de la biodiversité et atténuent l'impact négatif dû à nos pratiques de construction.
Depuis les années 2010, les maires des villes telles que Chicago, New York et Toronto ont osé modifier les normes de construction et vont jusqu'à octroyer des subventions à certains projets de toits végétalisés afin d'encourager les initiatives citoyennes et commerciales.
Ils ont donc compris que les bénéfices à long terme seront fastes pour l'économie, pour la société et pour l'environnement. Have envied him for so long.
inspiré du texte d'Alexandre Casey tiré de Aube, le recueil de solutions, adapté et récité par Marie-Claude Tardy et Philippe Laramie.